Ndekeluka. Mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Ndekeluka, la grande édition de cette mi-journée avec Providence, jeudi Rogbondi. Providence, bonjour.
Bonjour Dinakor, bonjour à tous. Les titres de ce journal. Ouf de soulagement pour les fonctionnaires et agents de l'État dans les villes de la République centrafricaine dépourvues de banque. Ils pourront désormais percevoir leur salaire à base de leur téléphone mobile. Une innovation lancée ce samedi par le chef de l'État centrafricain. Le médecin chef de l'hôpital de district de Bégoua dénonce la réticence des parents à faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite dans la localité. Il appelle les chefs de foyer à la raison pour rattraper les derniers jours de cette vaccination. Et puis ce grand coup de vent qui vient de secouer Radio Ndekeluka, l'artiste comédien Constant Gardé alias Asibozo ou encore Petit Courageux n'est plus. Il est mort ce matin à Bangui des suites d'une longue maladie. Football, match amical RCA Niger dimanche prochain pour les préparatifs des éliminatoires de la CAN 2021. Les Fauves ont quitté Bangui ce matin à destination du Niger en vue de cette rencontre. Une fois de plus, bonjour à tous. Une innovation dans le paiement de taxes et salaires aux fonctionnaires et agents de l'État à l'intérieur du pays. Désormais, ces opérations peuvent se faire via le téléphone. Le chef de l'État, Faustin Akrange Touadéra, a lancé samedi le dit projet et encourage les Centrafricains à s'approprier cette innovation. Jean-Fernand Kouina.
Face à la faible couverture bancaire et structure de microfinance obligeant les fonctionnaires et agents de l'État à abandonner leur poste pour faire le déplacement de Bangui en vue de toucher leur solde, ce projet se veut une réponse structurelle. Ceux-ci peuvent rester sur place, accéder à leur solde et ou payer leurs taxes via leur téléphone.
L'élan pris par l'administration financière d'offrir aux contribuables une plateforme digitale afin d'alléger, voire de supprimer à terme les lourdeurs, les pertes de temps des contribuables qui pour l'essentiel proviennent du monde des affaires, est fortement à encourager. Cette dynamique de l'administration financière s'inscrit dans une perspective de relèvement d'une économie nationale inclusive et durable à travers l'inversion de la tendance financière actuelle qui reposera d'abord et avant tout sur une forte mobilisation de nos ressources domestiques. C'est pourquoi j'encourage cet élan patriotique de reconstruction économique mais aussi sociale bâti sur les valeurs d'unité, de travail et d'engagement de toutes les parties prenantes.
L'État reste ambitieux malgré les défis. Une dose rassurante de courage dans le contexte où le pays s'apprête à passer d'une étape grâce à la fibre optique susceptible de rendre la tâche aisée. Faustin Akrange Touadéra est optimiste de la modernisation de l'administration qu'il a promis aux Centrafricains.
Vous comprenez qu'aujourd'hui, les modes de production et de consommation sont plus que jamais façonnés par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction le 30 mars 2016, je me suis engagé à moderniser l'administration centrafricaine en mettant un accent particulier sur le numérique. Il s'agit pour moi de bâtir une Centrafrique ouverte sur le monde.
Ce projet entrera dans sa phase opérationnelle dès janvier 2020. La RCA emboîtera ainsi le pas au Rwanda, Burkina Faso et Togo. Si cela est une bonne nouvelle, le prix à payer par les bénéficiaires est d'avoir de téléphones Android et gérer les caprices de connexion dans les zones non couvertes par les téléphonies mobiles.
Merci à vous Jean-Fernand Queen.
Les garants et facilitateurs de l'accord de paix du 6 février dernier ont noté des avancées dans sa mise en œuvre.
Ces avancées concerne la réduction des violences, le redéploiement des services de l'État et des forces de défense et de sécurité intérieure. Selon Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour le maintien de la paix, c'est un progrès qui doit être encouragé.
Entre juin et octobre de l'année dernière, 597 incidents répertoriés, 1777 victimes, notamment de la part des groupes armés. Pour la même période de cette année, il y a moitié moins d'incidents et moitié moins de victimes, 304 incidents et 494 victimes. Aujourd'hui, les FACA se redéploient. La plupart des préfets et sous-préfets qui sont déployés, donc l'État revient. Tout cela pour souligner qu'il y a quand même des progrès qui sont clairs. Est-ce que ça suffit? Est-ce que nous sommes au bout du chemin? Évidemment non.
Cette mission d'évaluation a aussi relevé quelques dérapages.
La mission dénonce des incidents inacceptables au nord et nord-ouest du pays. Les garants et facilitateurs appellent les signataires à respecter leurs engagements. Ceux qui violeront cet accord trouveront la communauté internationale en face d'eux. Message de Ismaël Chergui, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine.
Nous déplorons et nous condamnons de manière très ferme toutes les violations qui ont été portées à cet accord. Donc nous restons résolus pour continuer à vous accompagner dans la mise en œuvre de l'accord, mais également à user et utiliser l'article 35 de l'accord s'agissant des sanctions. Ceux qui croient qu'ils peuvent violer l'accord ou perturber sa mise en œuvre, je pense qu'ils trouveront la communauté internationale en face d'eux. Et nous disons cela pour les signataires et ceux qui n'ont pas signé, quels qu'ils soient.
Smaïl Cherghi, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, était au micro de Rodrigo Rabinga. La mission conjointe Union africaine, Nations unies et Union européenne a réaffirmé son engagement et sa détermination à soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix du 6 février, notamment en accélérant l'opérationnalisation des UMS, Unité spéciale mixte de sécurité, de redéploiement des services de l'État et des forces de défense et de sécurité.
Providence, parlons toujours de la situation sécuritaire en Centrafrique. La ministre de la Défense rassure quant à la célébration des journées de la femme rurale de l'alimentation à Bambari.
Ces manifestations auront lieu les 15 et 16 octobre. Marie-Noël Kouyara a indiqué samedi lors d'une conférence de presse que la sécurité des Centrafricains n'est pas seulement l'apanage d'une manifestation, mais elle est plutôt une obligation de l'État. La ministre de la Défense, au micro de Bonaventure Ngomba Katsikiro.
Nous avons l'obligation d'assurer la sécurité des Centrafricains dans tout le pays. Et les activités doivent s'exécuter normalement dans notre pays. Vous savez bien que la GMA, c'est une occasion que le gouvernement donne pour reconstruire les régions. Et Bambari a été choisi l'année dernière comme zone devant abriter la GMA et ça a permis au gouvernement de commencer à refaire les routes. Vous avez vu que à cette occasion aussi, les milliers de personnes qui étaient à l'époque dans les abris de fortune vraiment de déplacés en face de la préfecture ont regagné leur maison parce qu'ils ont vu que il y a le redéploiement des FACA, il y a le redéploiement qui a changé quand même de manière de faire au niveau de la MINUSCA et autres. Donc, Bambari, qui a été choisi comme ville sans armes, doit relancer son développement. Et c'est dommage ce qui s'est passé l'année dernière, mais je vous dis que la sécurité des Centrafricains devrait être assurée dans toutes nos villes, dans toutes nos provinces, dans le pays d'une manière générale. Donc nous ne lions pas la sécurité seulement à une activité. Parce que c'est comme si on limitait nos actions, alors que c'est une obligation pour nous d'assurer cette mission.
Les Centrafricains déplorent l'utilisation des bois frais pour la fabrication des pains ces derniers temps dans la ville de Bangui.
Une pratique qui risque de causer davantage la dégradation de l'environnement en cette période de lutte contre le changement climatique. La société africaine de distribution Soadis, détentrice de boulangerie Pain d'Or, est soupçonnée d'être à l'origine de cette pratique. Une enquête signée Rolf Domier-Leu.
Dans 5 boulangeries Pain d'Or appartenant à la société africaine de distribution que nous avons visitée, le constat est presque identique. Avant l'enfourrement des pains, les boulangers ont 2 sources d'alimentation. Ils utilisent l'énergie électrique et l'énergie fournie par des bois de chauffe. À cause de l'irrégularité de l'électricité, les pains sont cuits tous les jours avec des arbres frais dans la plupart des manguiers. Une source proche du ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche nous confie que le département est au courant de ce que fait ce géant pâtissier. Ces arbres sont généralement trafiqués la nuit et en grande quantité. Des mesures sont en train d'être mises en place pour réglementer l'utilisation des bois. Conséquence, ce procédé constitue un vecteur de la déforestation. C'est ce que craignent certains Centrafricains.
Souvent quand je passe devant les boulangeries, je vois il y a les stocks des bois, les fabricants du pain qui utilisent souvent pour fabriquer les pains. Je me demande, est-ce qu'ils ne peuvent pas utiliser de l'électricité ou c'est avec les bois? Le fait d'utiliser en quantité les bois et ça entraîne la destruction des bois dans la ville et dans les provinces.
Chez les Blancs, ils utilisent le gaz et l'électricité dans les boulangeries. Chez nous, les boulangers préfèrent les bois au courant. Ils ignorent cependant que les fumées qui se dégagent de ces bois sont dangereuses pour la santé des consommateurs.
Reconnaissant les faits, le ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche compte modifier le cahier de charge de cette boulangerie. Selon Oclefort Fiongay, directeur des forêts, la boulangerie va utiliser les résidus des bois laissés par les grandes sociétés d'exploitation forestière en lieu et place des bois frais. Il rajoute par ailleurs que cette pratique est indéfendable par le code forestier de la République centrafricaine. Contactés, les responsables de la société africaine de distribution, propriétaire des pains d'or, n'ont pas encore réagi.
Santé, le médecin-chef de l'hôpital de district de Bégoua dénonce la résistance de certains parents à faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite dans la localité.
Selon Dr Alain Modeste Gbené, beaucoup de chefs de famille refusent que les doses de médicaments soient administrées à leurs enfants. Ils regrettent le fait que depuis le déroulement de la campagne en cours le 4 octobre dernier jusqu'à présent, seulement 10 000 mineurs sur 72 000 visés sont vaccinés dans la commune de Bégoua alors que les activités sont presque à terme. Dr Alain Modeste Gbené appelle les parents à la raison.
Le même jour du lancement, nous avons démarré la sensibilisation et le dénombrement des enfants de 0 à moins de 5 ans. Et aussitôt que nous lançons cette équipe sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que les parents ne veulent pas adhérer à cette campagne de vaccination. Ce qui fait que la couverture vaccinale au J1 était autour de 21%. Avec cette allure, on risque de mal vacciner. Et donc, nous lançons un appel vibrant à nos mamans, à tous les gardes d'enfants, d'adhérer à cette campagne de vaccination. Nous sommes en train de finir les 3 jours. Et après cette campagne, il n'y aura plus une autre campagne de vaccination. On risque de prolonger pour arriver le lundi. On va encore évaluer si jamais la couverture n'est pas atteinte. On va faire un ratissage le mardi. Nous exhortons nos mamans à mettre à la disposition de nos équipes qui sont sur le terrain les enfants de 0 à 59 mois pour recevoir cette goutte de vaccin contre la poliomyélite.
Cette deuxième phase de vaccination des enfants de 0 à moins de 5 ans contre la poliomyélite pour le compte de l'année 2019 a été lancée le 1er octobre dans la commune de Bégoua. Elle se déroule dans 11 préfectures de la RCA.
Et puis les orphelins et enfants vulnérables de Bangui et ses environs ont reçu samedi des kits scolaires pour la rentrée 2019-2020.
C'est après un travail d'identification effectué dans les ménages des différents arrondissements de Bangui, Bimbo et Bégoua que ces enfants ont été retenus. Une initiative de l'association Ileke en partenariat avec l'ONG World Vision, Que Feu Rouge, Centrafrique et l'ambassade de France. La cérémonie de remise a eu lieu devant les autorités du pays. Emmanuel Samboli nous fait le point.
Autrefois, nous voyons le visage de papa et de maman.
Ils sont 100 orphelins venus de différentes écoles des arrondissements de Bangui et ses environs, âgés de 6 à 17 ans. Chacun a reçu un sac, des cahiers, des stylos et des livres. Ce geste vise à les aider à bien démarrer cette année scolaire.
De devenir orphelin.
Christiane Israëla Ngumba, 11 ans, élève en classe de CM2, est l'une des bénéficiaires.
Mon plaisir, c'est de remercier l'association Ileke. J'ai trouvé des papas dans l'association Ileke. Et merci à l'ambassade de la France. Je vais apprendre à lire et à écrire. Je veux monter, je veux avoir mon concours et mon CP pour montrer à la classe supérieure.
Cette initiative est l'un des objectifs de l'association Ileke. Jean-Claude Mokosa, son secrétaire général.
Vous savez, dans notre pays, nous avons passé des moments difficiles. Dans notre objectif, nous voulons dire qu'on va travailler auprès des enfants qui ont perdu le papa dans le moment opportun, dans le moment où ils sont en train de passer là. Donc, on a fait un effort de travailler avec les enfants vulnérables et les orphelins. C'est ça notre objectif.
Cette association a remis également des jouets et matériels didactiques à l'orphelinat Yambambigazo et a nettoyé le centre de santé de Yapele. La prochaine étape sera de distribuer des jouets aux 100 autres orphelins d'ici au mois de décembre.
Nous ont disparu. Maintenant, nous sommes devenus orphelins.
Radio Ndekeluka vient d'être encore endeuillé. Notre artiste comédien Assi Bozo ou encore Petit Courageux vient de mourir à Bangui.
Constant gardé de son vrai nom, l'un des comédiens du village Linga, Assi Bozo ou encore Petit Courageux n'est plus. Il est mort ce matin à Bangui des suites d'une longue maladie. Sa mort est donc un grand coup de vent qui vient de secouer Radio Ndekeluka et ses auditeurs en l'espace de quelques mois après la disparition de notre correspondant à Bozo. La direction de Radio Ndekeluka adresse ses condoléances à la famille du disparu, Assi Bozo ou encore Petit Courageux. Ouvrons à présent la page des sports. La page des sports, c'est avec Bienvenue Bélo. Bienvenue, bonjour.
Bonjour Providence, bonjour à tous.
Football, préparatif des éliminatoires de la CAN 2021, le match amical Niger-RCA se précise.
La délégation centrafricaine a quitté Bangui ce matin pour Niamey. Elle est composée de 12 personnes, dont 7 joueurs, et est dirigée par Averel Faga, membre du bureau fédéral. La rencontre est prévue dimanche 13 octobre au stade de Niamey. Les fauves de la diaspora vont les rejoindre sur place à Niamey pour ce stage comptant pour la journée FIFA.
Football toujours, démarrage le jeudi 10 octobre du championnat de la Ligue de Bangui en deuxième division.
Les clubs qui s'entraînent depuis plusieurs mois n'attendent que ce démarrage. Le calendrier dans nos prochaines éditions.
Pendant ce temps, la troisième journée en première division a pris fin hier au stade Barthélémy Bouganda.
Au dernier match, le tout puissant USCA de Bangui a battu Espoir Club de Beigua 3-1. Red Star et les Anges de Fatima sont en tête du classement provisoire du championnat avec 9 points.
Basketball, après deux années d'absence, le club féminin de Zarasclo va revenir dans le championnat de la Ligue de Bangui.
Deux grandes décisions ont été prises lors de ces travaux. D'abord, le retour de l'équipe féminine dans le championnat de la Ligue de Bangui et celle du retrait de Guy Maurice Limbio au poste du président de ce club d'ici 2021. Le budget du club sera revu en hausse pour atteindre 19 millions de francs CFA la saison prochaine. Guy Maurice Limbio, président de Zarasclo, au micro de Juvenal Kouérépédé.
La première phase, c'est quelque part sous une forme déguisée de l'entrée dans un semi-professionnalisme, de la prise en charge du joueur jusqu'au volet professionnel. Comment on accompagne ces athlètes demain dans leur avenir en continuant le projet de formation qu'on a démarré avec les jeunes qu'on peut aller détecter dans la RPI. Et le deuxième point qui est fondamental et qui est fort, c'est le fait qu'en 2021, je ne serai plus président de Zarasclo et que je dois préparer la relève en nommant un vice-président qui était déjà dans la structure du club, qui va travailler avec le vice-président actuel. On voudrait qu'on puisse avoir un nouveau technicien avec son adjoint, la mise en place réellement d'un chargé de matériel. Et puis, il y a les filles qui reprennent. Donc on se doit de donner une attention particulière au basketball féminin.
Kento Guzi est nommé vice-président pour renforcer le bureau du club. Des récompenses ont été données à plusieurs personnalités, dont les anciens joueurs qui ont quitté le club, à l'exemple de Rodrigue Kabilo, Olivier Mboyo et Omega Ngaifi.
Merci à vous, bienvenue pour cette page des sports et c'est la fin de ce journal en français.